Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
Le Positive Morning continue avec, comme promis, notre invité Patrick Makovka qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour, bonjour Patrick. Avec le micro devant, c'est mieux.
On était bien installés, on était comme dans le salon, on échangeait pas mal de choses.
Avec le petit café, et le micro là-haut.
Et le micro au-dessus de la tête, voilà.
Voilà, exactement. Ça va Patrick ?
Ça va très bien. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs.
Alors il y a pas mal de choses à faire dans le jardin. On a commencé à en parler un peu plus tôt, hein, par téléphone avec vous. On a parlé de plantes grimpantes, de tomates, on a parlé d'arrosage. On va détailler tout cela et puis aussi répondre aux questions auditeurs.
Exactement, vous posez vos questions maintenant au 0033 652 300 342. N'attendez pas pour poser vos questions, comme ça on a vraiment le temps de développer avec vous. Et vous pouvez poser vos questions aussi sur la page Facebook de Phare FM où nous avons épinglé justement un petit post qui dit qu'on parle de jardin ce matin.
Exactement, avec Patrick jusqu'à 10h. Patrick, on a une question de Raphaël qui nous arrivait par SMS au plus 33 652 300 342. Il dit qu'il a des pieds de tomates qui poussent dans son composteur et d'autres légumes et veut les récupérer. Comment est-ce qu'il s'y prend pour qu'ils tiennent et qu'ils produisent? Donc là, c'est dans un composteur, donc il a dû mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et ça reprit, c'est ça? Ça pousse?
Ce sont des fruits, ou en tout cas des épluchures et des graines de tomates, des tomates qu'ils n'ont pas consommées l'été dernier, ou des courges, ou tout simplement les graines quand on nettoie ses courges, ses courgettes.
Oui.
On met tout ça dans le compost. Le melon, c'est la même chose. Et effectivement, si les températures n'étaient pas trop basses cet hiver, et dans un compost, c'est le cas, il y a une dégradation qui fait qu'il y a un dégagement de chaleur, donc les graines peuvent rester pérennes et lever maintenant. Alors ça pose juste une question sur les tomates en particulier. Il peut les repiquer, il peut les replanter et elles vont pousser à peu près normalement. Il faut s'en occuper juste un peu au moment du repiquage, les arroser comme il se doit et elles vont pousser et fructifier normalement. Ça pose juste une question, on l'avait dit hors antenne, si cette personne avait acheté des tomates hybrides. La plupart des tomates de grande consommation, celles qu'on trouve sur les étalages, sont souvent des tomates hybrides parce qu'on leur demande d'être résistantes aux maladies, d'avoir du goût, d'être bien rouges, etc. C'est souvent des hybrides F1. Et quand on ressème une graine issue d'une tomate hybride F1, mais c'est valable pour tous les légumes et tous les fruits sur le marché, on retrouve quelque chose d'assez particulier. On va retrouver 25% des caractères de la tomate père, de la tomate mère, et 50% d'un espèce de mélange infernal. Autrement dit, ce monsieur, quand il va repiquer ses tomates, il va avoir des tomates absolument différentes, bizarres. Toutes sont comestibles, il n'y a aucun problème, mais ça ne ressemblera en rien aux tomates qu'il avait pu acheter et consommer l'été dernier.
D'accord.
Si toutefois elles dataient de l'été dernier.
Alors il faut se poser la question si ce sont des tomates hybrides, si c'est des tomates normales, enfin normales, issues de. Normalement ça devrait
une
bien fonctionner.
Une marmande, si je vous dis une marmande, une cœur de bœuf, on va parler des vieilles tomates, une rose de Berne, ça ce sont des variétés qui sont fixées, vous pouvez ressemer autant de fois que vous voulez, récolter, ressemer, vous aurez toujours la même tomate. Mais les hybrides F1. C'est pas le cas.
Ça marche pas. Bon, on rentrera dans les détails de tout cela. Et puis des variétés de tomates, savoir aussi si c'est la bonne période pour planter. Et entre-temps, vous pouvez poser vous vos questions aussi, comme l'a fait Raphaël, au plus 33 652 300 342. On parle de tomates, on en a parlé déjà un petit peu, plutôt par téléphone, Patrick. C'est la saison des tomates, il faut planter, il faut s'occuper des tomates. Qu'est-ce qu'il faut faire là actuellement?
Eh bien, on peut encore les planter, absolument, parce que le temps s'y prête merveilleusement bien. Où qu'on se trouve, on a plutôt du beau temps, là, et arrosé de temps à autre.
Donc des plants de tomates, hein, pas de graines ou quoi que ce soit.
Non, la graine, c'est fini. La graine, c'était au tout début de l'année, c'était janvier-février. Là, il est évidemment trop tard. Mais les plants se trouvent toujours chez vos horticulteurs et dans vos jardineries. Il y a ce qu'il faut. Et on va pouvoir les planter raisonnablement, comme ça, jusqu'au 15 juin. Après, ça devient un peu compliqué.
Alors, quel type de variété? On disait un peu plus tôt, il y a plus de 40 variétés de tomates. Elles ont quoi ces spécificités de tomates les unes par rapport aux autres?
Alors, je vais faire simple. Vous avez d'abord toutes ces tomates cerises, ce qu'on appelle les tomates apéritifs, qui sont des tomates qui sont prédisposées, je dirais, pour la culture en balcon.
Oui.
Parce que c'est une culture, en tout cas entre la naissance, entre la floraison et la récolte de la tomate, il y a un espace, enfin un temps qui est vraiment très court. Et quand on sait que nous sommes en pot sur la terrasse, qu'on peut avoir des problèmes d'eau ou de nourriture, ce genre de tomate est vraiment prédisposé pour arriver à maturité et avoir un fruit comestible rapidement. La tomate est un fruit.
C'est vrai, je le savais.
C'est un légume, non, c'est un fruit.
C'est un fruit. Et les carottes aussi, c'est une racine.
C'est une racine.
Bon, d'accord.
Dans les légumes.
Dans les légumes, d'accord.
Nous venons de parler des tomates cerises, qui sont les plus prédisposées pour le balcon, mais aussi le jardin. Mais ensuite, on va parler des tomates de grande production, qui sont essentiellement les tomates hybrides et fines dont on parlait tout à l'heure. Les Montfavet, les Maestria, les Master, qui sont des tomates très, très productives. Avec un fruit assez homogène, répétitif, c'est celui qu'on va trouver dans les étalages, un peu comme pour les pommes, vous savez, stéréotypé. Et il y a la grande cavalerie des vieilles variétés qui apporte ses couleurs. Hein, les tomates vertes, ça existe, c'est les tomates anciennes. La tomate rose, ça existe, elle est de Berne pour le coup.
Ah oui.
Vous avez les tomates cœur de bœuf qui ont un succès phénoménal, on les retrouve aujourd'hui sur les étalages.
Cœur de bœuf, c'est gros format le cœur de bœuf,
ouais,
c'est ça?
Ouais.
Et donc on cuisine comment généralement?
Tomate farcie?
Ouais, pas trop, ça serait dommage. Plutôt une marmande qui est... Voilà, mais la cœur de bœuf, c'est plutôt salade parce qu'elle a quand même quelque chose. La tomate ananas qui est un truc vraiment beau à voir et bon à manger.
D'accord.
Faut découvrir la tomate ananas.
Donc tomate ananas, non pas tomate à femme pour femme, mais une tomate ananas. Voilà, c'est ça, on est d'accord.
Excusez-le pour ça.
Pardon, désolé. Mais...
Restez avec nous sur Phare FM.
Et la propriété de cette tomate alors? C'est son format, c'est ça?
C'est son grand format et sa chair. Elle est très douce en bouche. Après, vous avez des tomates hors normes que sont les Buffalo Steak et les Super Steak, qui sont des tomates qui peuvent faire 500-700 grammes.
Wow.
Où il n'y a pas un poil de flotte dedans. On en fait littéralement un steak.
Ah oui.
C'est vraiment excellent. Sur le marché, il existe à peu près 150 variétés de graines disponibles en tomates.
Ah oui.
Donc, il y a de quoi faire.
J'avais une question sur les tomates. Voilà, on a notre plant de tomates. On a juste besoin de l'arroser. Combien de temps est-ce qu'il faut mettre de l'engrais? Comment ça se passe, Patrick?
La tomate, c'est une culture très gourmande.
Ah.
Dites-vous bien que pour ceux qui la sèment, janvier, février, on sème des petites graines.
Mmh.
On fait lever ça dans la maison, ça fait 2-3 cm. On va les repiquer dans un pot plus grand. Mars, avril, on va commencer à les mettre dehors. Mai, avril, mai, juin, dernier carat, on les plante dans le jardin. Et puis dans 2 mois, vous allez commencer à manger des tomates. Mmh. Ce petit plant, qui était haut de 2 cm au mois de janvier, février, va en faire 1m50, 1m75 à la fin de l'été. Et il peut produire 10-15 kg de tomates.
Wow.
Vous pensez que raisonnablement, ça ne mange pas une bébête comme ça?
Bah si. Je suis 1m75. Donc voilà. Je sais que je mange moi.
C'est une croissance exponentielle même. Et ça donne un maximum. Évidemment que la tomate est gourmande et elle consomme pas mal d'engrais. Donc nous ce qu'on conseille, alors plus encore pour ceux qui sont en pot, parce que en pot la plante n'a à boire et à manger que ce que vous voudrez bien lui donner, ça faut le retenir. Dans le jardin, elle a plus de choses, le terrain n'est pas pauvre, mais cependant il faut quand même les nourrir. Et donc les engrais bio tomates sont parfaits. Vous avez là des engrais qui sont riches en potasse, parce que la fleur va générer un fruit, la tomate, et les engrais qui sont les plus nécessaires, au départ c'est beaucoup d'azote pour faire de la feuille, et ensuite pour la floraison fructification, la dominante doit être potassique. Donc on a pour certains 10, 15, voire 30 unités de potasse, et c'est ce qui est nécessaire pour une culture de tomates où on demande quand même à cette petite plante, beaucoup.
L'arrosage, c'est tous les jours, une fois par jour, deux fois par jour?
Deux choses à dire, les tomates en pot, elles devront être arrosées régulièrement. Quand on est à 25-30 degrés, c'est tous les jours, il n'y a pas photo. Et dans le jardin, on peut se permettre de pailler pour économiser l'arrosage.
D'accord.
Et moins on arrose, je dirais, et moins les besoins sont importants. Pour autant, il ne faut pas être en plein soleil, mais le paillage est une solution pour diminuer un peu.
Donc le paillage tout autour du pied une grande surface?
Paillettes de chambre, 20-30 cm autour du pied, ce qui correspond à la surface d'évaporation de l'eau du sol autour du pied, et ça fait des économies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas arroser, mais on fait des sacrées économies.
Anne-Gabrielle nous dit « J'ai planté des plants de tomates, malheureusement, elles se sont fait manger. Est-ce que ce sont les limaces ou les oiseaux qui sont en cause, Patrick ?»
Alors, s'il y a des traces de mucus au sol, ou en tout cas le soir ou très tôt le matin, vous allez voir, les limaces pourraient, je dis bien pourraient, parce que la feuille de tomate, c'est pas quelque chose de très sympathique, c'est très fort, et les limaces courent pas après. Je pense plutôt aux oiseaux qui peuvent à un moment donné se focaliser là-dessus, les picorer. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Limaces, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il y aurait au sol, et en tout cas, les témoins sont pas très, enfin, elles sont pas très loin, elles sont cachées là à quelques centimètres, et on les voit le soir et le matin.
Alors, les solutions, ce serait quoi? Du paillage justement pour les limaces, et puis un filet pour les oiseaux? Ou pas.
Alors, le paillage de miscanthus ou le paillage de chanvre est une bonne chose. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de paillage pour limiter les arrosages. Mmh. Ben, fait d'une pierre deux coups, ça limite aussi, et surtout le paillage de miscanthus, la venue des gastéropodes, les limaces et les petits escargots qui pourraient éventuellement manger ces plantes. En ce qui concerne les oiseaux, le filet, ouais, c'est juste passager. C'est un instant T. Ça ne durera pas.
Mais alors, elle ne va plus avoir de tomates ou comment ça va repousser, ça va reprendre.
Si j'ai bien compris, ils sont morts, là. Ouais. Donc ils ont été totalement mangés. Donc
elle n'aura pas de tomates cette année.
Ah non, il faut replanter. Là.
Il faut replanter. Mmh. Mais si elle replante et qu'elle a à nouveau des oiseaux,
je pense que l'épisode oiseau, c'est quand même très rare. Ça D'accord. arrive, je l'ai vu, mais c'est pas commun. C'est pas un parasite à proprement parler du potager. Et il avait peut-être une bonne raison pour venir cet oiseau, c'est qu'il y avait peut-être des pucerons. Puis en même temps, il dit allez, je vais prendre le dessert.
Merci pour cette réponse, Patrick, concernant les tomates. On a aussi une question qui est arrivée de la part de Daniel du côté de l'Alsace. Sandrine, elle a un problème dans son potager,
oui.
Daniel.
Alors on sort des tomates, si je puis dire, et on passe dans le potager. Comment enlever le chien-dent ?
Alors, peut-être définition du chien-dent pour ceux qui ne sont pas très potagers.
Le chien-dent est une graminée qui a un fort développement, des feuilles très larges. Donc, c'est une graminée du même type que la prairie ou le gazon, si vous voulez. Sauf que la feuille est très large. La feuille est coupante. On peut prendre dans les mains et on va s'apercevoir que c'est très riche en silice. Et on peut avoir des petits bobos sur les doigts. C'est une plante qui est très vigoureuse. Et quand on coupe, ou en tout cas, quand on essaye de l'arracher ou de la déraciner, on va prendre une motte et on va voir qu'il y a des grandes racines blanches, pointues, qui sont capables de transpercer les pommes de terre. C'est-à-dire la vigueur de cette plante. Donc le chien-dent est une graminée très difficile à éradiquer. Là, il n'y a pas 36 solutions. On y va avec le fer de bêche. On essaye de sortir le maximum et on prend toutes ces racines blanches qui sont bien attachées quand même à la plante, à la différence du liseron. C'est très facile à enlever du sol. Mais il faut en passer par là parce que dans le potager, on ne peut plus mettre n'importe quoi.
Il n'y a rien de biologique à utiliser pour essayer de les attaquer.
Il y a des désherbants plus naturels qui sont biocontrôle aujourd'hui, qu'on trouve sur le marché. Mais parce que vous êtes dans le potager, on va essayer de
vaut mieux pas le faire. Voilà. Ouais. Et pour éviter que le potager soit touché par tout ce qu'on aurait pu mettre.
Oui.
L'huile de coude, ça reste totalement bio.
Ouais. C'est vrai. Vous continuez à poser vos questions. Plus 33 652 300 300. 42. On parle d'une plante que vous aimez très bien dans un instant, Patrick, j'ai oublié le nom. Pivoine, voilà.
La pivoine.
Une question de pivoine on nous a posée. On va répondre à cette question dans un instant. Et n'hésitez pas, vous aussi, à poser la vôtre. On parle de jardinage, plantation extérieure, intérieure, n'hésitez pas.
On a reçu un message de Caroline.
Un message audio, oui.
Il y a un message audio et on parle plus de tomates cette fois-ci.
Non, on parle plus de tomates, on écoute. Là.
J'ai des très grands plants de pivoine qui sont magnifiques. J'ai une amie qui aime beaucoup les pivoines et je voulais savoir s'il y avait moyen de que je lui en donne un bout pour qu'elle puisse le planter dans son jardin et comment il faut procéder pour que ça fonctionne et à quelle période de l'année. Voilà, merci beaucoup.
Alors, pivoine n'est pas avoine. Est-ce qu'on peut décrire un peu cette plante, le pivoine ?
La pivoine, autant pour moi.
La pivoine, c'est une des fleurs les plus somptueuses du jardin. C'est relativement éphémère, mais alors quel bonheur quand on la voit s'épanouir. Et puis le parfum, il y a quelque chose là. Les pivoines, elles sont au nombre de deux. Vous avez les pivoines herbacées, qui sont les pivoines qui vont disparaître complètement pendant l'hiver. Je ne sais pas laquelle des deux
Caroline
a dans son jardin, mais on va s'y retrouver pour lui donner le conseil. Et vous avez la pivoine arbustive qui, elle, laisse des traces comme un rosier. Il y a des branches et il y a quelque chose qui peut faire 1 mètre, 1 mètre 50 de haut. Et les pivoines sont des végétaux qui peuvent vivre une centaine d'années, si ce n'est plus.
Ah oui.
Donc c'est la plante qu'on se donne, en tout cas, jadis, on les transmettait de mère en fille ou de père en fils, mais plutôt de maman en fille. Et c'était vraiment la plante familiale. Alors, pour le cas de Caroline, c'est pas le moment de faire de la division.
D'accord.
Ça sera plutôt pendant l'hiver. Donc si c'est une herbacée, on va prendre le fer de bêche et on va y aller franchement. On va découper une partie de la racine qui peut descendre très profondément. Hein. D'ailleurs, on va donner quelques conseils pour la plantation. Ça peut descendre à plus d'un mètre. Mais vous, en tout cas Caroline, va découper une partie de racine sur 10, 15, 20, 30 cm. Elle va la donner à son ami pour pouvoir la planter. Et c'est là où la question de la plantation se pose. Quand on plante une pivoine, et il y en a plein les jardineries, c'est une plante qui est à la mode. Herbacée ou arbustive, il faut faire un trou, d'accord, comme pour toute plantation, mais surtout on va se donner du mal, on va descendre très profondément, descendre à un bon mètre de profondeur, c'est pas pour la mettre au fond du trou, hein. Simplement pour décompacter le sol, déstructurer, rendre cette terre beaucoup plus meuble et permettre à la racine de descendre. La racine peut descendre à plus d'un mètre, parfois 1,50 m. C'est le même cas d'ailleurs pour la rhubarbe. Quand on plante une rhubarbe, il faut faire la même chose parce que les racines sont très profondes. Donc pour la pivoine, c'est cet hiver, Caroline, et vous le faites sur une pousse de 10-15 cm de diamètre. Et vous descendez le plus profondément racine, plus profondément possible pour avoir une bonne racine avec une bonne reprise au printemps prochain.
Quand on parle de l'hiver, c'est pas un hiver quand il fait très froid parce que la terre va être trop compacte. C'est l'entrée de l'hiver, c'est ça quand on parle de l'hiver.
Alors,
c'est quoi? C'est décembre, novembre.
C'est de la Toussaint à février. C'est évidemment hors période de gel, mais c'est pendant tout l'hiver. C'était l'époque. À l'époque, on transplantait tous nos végétaux pendant l'hiver. On disait à la Sainte-Catherine, Sandrine.
Tout bois prend racine.
Voilà.
Donc c'est à peu près le moment où Caroline va devoir faire cette opération.
Ah bah voilà. Voilà Caroline pour votre réponse. Elle fait un mètre de haut de diamètre et de diamètre, nous dit Caroline.
Ouais, donc elle est bien présente. C'est certainement une herbacée. Et oui, elle va pouvoir faire ça tranquillement.
Voilà.
L'hiver prochain.
Voilà Caroline pour la réponse.
Patrick Makovka, quand on vous a eu un peu plus tôt dans cette émission, vous êtes jardinier et vous nous parliez des plantes grimpantes. Est-ce qu'on peut réaborder le sujet avec vous?
Ah oui, il est toujours temps de planter une grimpante. On a toujours eu un peu de place pour mettre une plante grimpante, que ce soit sur le balcon ou dans le jardin, ou près d'une pergola, sur une clôture. Tout est bon pour planter une grimpante. Mmh. Et en général, elles nous le rendent super bien.
C'est pas trop compliqué, justement, à faire pousser?
Non.
Parce qu'on a l'impression que c'est, enfin, étant donné que c'est grimpant, que ça demande plus de conditions, peut-être que justement une plante qui ne grimpe pas.
Il y en a d'autres qui s'en plaindraient parce que ça grimpe justement. C'est peut-être parfois envahissant pour certaines d'entre elles, si on parle de la glycine. Non, c'est dès qu'il y a un support, elle part, elle s'enroule. Ou elles s'accrochent pour certaines d'entre elles. C'est vrai qu'au départ, il faut quand même les attacher. Mais
il faut les aider aussi.
Il faut les aider. Voilà, si vous prenez une vigne, vous faire grimper une vigne raisin de table sur une pergola, il faut l'aider, il faut l'attacher. Elle n'a pas la capacité de se tenir toute seule.
Alors, quelles sont les plantes grimpantes qu'on a l'habitude de voir généralement?
La première d'entre toutes, c'est certainement le rosier. Parce que voilà, c'est typiquement français, c'est une culture du rosier et on aime bien la rose grimpante, la pierre de Ronsard par exemple, pour ne pas la citer. Et évidemment, en deux, on a les clématites qui sont souvent associées à un rosier. On fait pousser une clématite dans un rosier et on joue sur les contrastes. La clématite est vraiment royale. Il y a les clématites de printemps qui sont parfumées, qui ont fleuri, qui ont maintenant terminé leur floraison, mais qui ont une floraison exceptionnelle à profusion. Et puis derrière, il n'y a plus rien. Et maintenant, nous sommes dans les clématites d'été qui, elles, vont continuer à fleurir jusqu'au gelé de septembre, enfin septembre-octobre.
Alors, celles qu'on n'a pas l'habitude de voir, vous avez quelques exemples de plantes grimpantes originales.
Alors, moi, j'en ai une que j'adore parce que je l'ai découverte et que je l'ai plantée. Elle s'appelle le Wetakaka.
D'accord.
Et ça fait rire tout le monde. Alors, en général, le nom, on le retient. En latin, c'est Degrea chinensis, si je ne m'abuse.
Et ça se retient moins bien, oui.
Voilà. Alors, Wetakaka, ça va beaucoup mieux. C'est une plante volubile, assez généreuse, et qui a un parfum subtil et vraiment sympathique à découvrir et vous la trouverez un peu partout dans les jardineries, les pépinières.
Elle a une spécificité cette plante par rapport à d'autres, l'entretien ou c'est comme
non,
n'importe quelle.
C'est relativement facile, c'est une plante qui est originaire de la Chine continentale, donc elle ne craint pas le froid, jusqu'à moins 30, tout va bien pour elle. Et elle a besoin de place, donc s'il y a quelques mètres pour pouvoir s'épanouir, elle les prendra volontiers.
Encore peut-être d'autres plantes grimpantes originales?
Original
ou en tout cas qu'on ne voit pas forcément.
Les schizophragmas et les hortensias grimpants qui sont les seules plantes grimpantes capables de pousser et de fleurir à l'ombre. Je ne parle pas des hières et des vignes qui elles sont naturellement dans ces endroits-là. Mais les schizophragmas et les hortensias grimpants, c'est assez sympathique.
Ça marche bien à l'ombre donc.
Ça marche bien dans les conditions ombragées. C'est pas une grimpante volubile extraordinaire, mais ça peut faire 2-3 mètres de haut et ça fleurit et ça c'est original.
Ben merci pour ces conseils. On revient dans un instant avec vos questions si vous en avez encore jusqu'à la fin de cette émission. Il reste moins de 14 minutes. On va parler d'une plante qu'on connaît un peu plus, peut-être la glycine, très belle plante grimpante aussi.
On peut dire que ça fait des grosses grappes violettes et c'est souvent contre les murs ou voilà.
Oui. Alors, c'est quelque chose à mettre à la maison si on veut de la couleur notamment.
Ah oui, c'est une floraison exceptionnelle, c'est une plante assez exceptionnelle aussi, avec une vigueur incroyable à tel point qu'on vous donnera toujours quelques conseils pour vous en méfier parce qu'elle est capable de vous arracher les gouttières autour de la maison.
Ah oui.
Elle a une virulence, une force absolument incroyable. D'ailleurs, on l'élève en arbre. Souvent, et les Japonais, il y a d'ailleurs une glycine qui est millénaire au Japon, qui est exceptionnelle. C'est un arbre littéralement parce qu'ils l'ont élevé et taillé en forme d'arbre. Et c'est quand c'est en fleur, c'est un truc à se pâmer. Évidemment, en tant que plante grimpante, méfiez-vous des balcons et méfiez-vous qu'elle ne s'enroule pas autour d'un balcon sur la main courante. Elle va tout vous déformer, vous arracher. Là où elle est plantée aussi, c'est lui un espace vital minimale, à savoir s'il y a des pavés ou des dalles autour, elle va vous les soulever. Parce que la vigueur est exceptionnelle, encore une fois. Mais ça vaut le coup, parce que blanche, rose, bleu...
J'ai demandé les couleurs, donc blanche, voilà, bleu, rose.
Voilà, et il y a plein de variantes. Ouais. Il y a les glycines de Chine et du Japon. Alors, c'est juste une petite différence. Il y en a une qui pousse dans un sens et l'autre qui pousse... Ils ont des géotropismes, donc elle s'enroule dans un sens et l'autre de gauche à droite et de droite à gauche.
Il y a vraiment une différence.
Il y a une différence entre les chinoises et les japonaises. Okay. Et puis, il y a des formes de grappes plus ou moins grandes avec plus ou moins de fleurs. Enfin, il y a quelque chose à découvrir là. Et tout à l'heure, on parlait des watakaka et des plantes spéciales. J'ai oublié le chèvrefeuille quand même. Chèvrefeuille, c'est du parfum d'abord. Les polygodomes que je n'ai pas cités. Il y a une plante qu'on aime beaucoup. C'est le jasmin. Alors, ça vous rappelle Grasse, le parfum, mais il y a un jasmin qui tient sous nos latitudes, au nord de la Loire. C'est le jasmin étoilé, le trachélospermum, que je vous invite à planter parce que celui-ci, il est parfumé tout comme le jasmin de Grasse, mais avec une rusticité. Il tient chez nous, il pousse chez nous sans aucun problème jusqu'à 1200 mètres d'altitude.
Ça sent bon, ça, le jasmin.
Ouais. Il nous reste moins de 50 secondes. Patrick, les plantes grimpantes qu'il ne faut surtout pas installer près d'un mur qui pourrait le détruire, par exemple.
Ça dépend ce qu'on en attend. Évidemment, le lierre est capable de manger les joints. Alors, les vieux murs dans les villages, on connaît ça, le lierre grimpe dessus. Et c'est vrai qu'on a un grand choix de lierre avec plein de variétés, plein de feuilles différentes, parce que la floraison, évidemment, c'est pas très intéressant. Il y a les vignes qui offrent de très belles, très beaux contrastes par la nature et la couleur de leurs feuilles. Qu'il faut aussi utiliser à bon escient, parce que les crépis, en général, pour certaines d'entre elles, vont souffrir. Elles les décrochent littéralement.
Merci beaucoup Patrick pour tous ces conseils. Vous n'hésitez pas aussi à poser toujours vos questions. On retrouvera Patrick dans un mois sur l'antenne de Phare FM. Vos questions, plus 33 652 300 342.
Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à 6h. On vous souhaite une belle journée avec Phare FM. Merci beaucoup Patrick Makovka.
À très bientôt.
À très bientôt. Bye bye.